tous, salut à toutes et bienvenue dans To Beatles or Not To Be, une émission sur les Beatles mais sans les Beatles. On est ensemble pour écouter les Beatles autrement en explorant l'univers étendu des quatre fantastiques de Liverpool. Doc Robert ici au micro, cher public, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau numéro dans lequel vous allez pouvoir assister au concert des Beatles et en particulier à leur première scène. Je vous donne aujourd'hui l'occasion de vous faufiler parmi les auditoires qui ont été les premiers à découvrir les Fab Four en live. Au début de la carrière des Beatles, il y a une période qui dure environ 3 ans et demi, durant laquelle la scène est l'activité quotidienne du groupe, durant laquelle les musiciens se construisent, se perfectionnent, se font connaître, jusqu'à ce que leur popularité explose au niveau mondial. Et c'est à cette étape de concert intensif et formateur que l'on va s'intéresser aujourd'hui. Du milieu de l'année 60 jusqu'au début 1964, les Beatles jouent quasiment chaque jour devant un public. Il n'est ainsi pas rare qu'il n'ait que 3 journées de repos dans le mois, par exemple. Les Fab Four se produisent de ci, de là, dans diverses salles ou clubs, mais ils ont tout de même des lieux fétiches. Et à Liverpool, leur QG est le Cavern Club, une cave voûtée dans le centre de cette ville portuaire. Selon les estimations, les Beatles auraient donné entre 275 et 300 concerts dans cette salle désormais mythique. C'est au Cavern Club que le groupe se construit une solide réputation dans sa ville natale, ce qui y attire Brian Epstein, gérant d'un magasin de disques, qui devient finalement leur manager. Ce dernier est séduit pas tant par la musique des Fab Four finalement que par leur énergie, leur sens de l'humour, leur complicité entre eux et avec leur public. Ces qualités qui font tout le charme du groupe, Brian Epstein veut bien sûr les garder, tout en professionnalisant l'image du groupe, qui n'y accordait auparavant aucune importance à cette image, avec une attitude très détachée, immature, désorganisée. Alors que les spectateurs ont l'habitude de voir les Beatles vêtus de jeans et de vestes de cuir, fumer et manger sur scène, arrêter parfois les chansons en plein milieu, se positionner n'importe comment en tournant le dos au public, eh bien petit à petit, ces spectateurs assistent à une mue. Place désormais aux costumes, pantalons et vestons noirs, chemise blanche et fine cravate sombre. Les places de chaque musicien sont fixées pour le restant de leur carrière. La batterie au fond, Lennon sur le micro de droite, Paul et George sur le micro de gauche. C'est ainsi que les Beatles, âgés d'une 20aine d'années, apparaissent sur le seul témoignage connu de leur concert au Cavern Club, un enregistrement audio et vidéo réalisé par une chaîne de télé locale à la fin de l'été 62. Les Fab Four viennent tout juste de signer un contrat avec leur maison de disques, ils n'ont encore rien sorti dans les bacs, et Ringo Starr a intégré le groupe 4 jours auparavant à la place de Pete Best, ce qui a d'ailleurs provoqué des bagarres parmi les fans. Le reportage télé en question circule allègrement en ligne aujourd'hui. Il a donné lieu à l'enregistrement de 2 chansons. Imaginez que vous êtes dans une petite cave voûtée de Liverpool, une pinte à la main à l'été 62 et que votre groupe préféré s'installe sur la petite estrade. Some of the guy now, I'll take my love away from me. Oh, now, some of the guy now, I'll take away my sweet desire. Oh, now, some of the guy now, I just don't wanna hold my hand.
had a couple of requests to do a tune called Kansas City, so we'd like to do Kansas City.
Ce soir-là, au Cavern Club, les Beatles jouent donc notamment deux reprises, Some Other Guy et, comme c'est leur habitude, des requêtes des spectateurs avec ici ce medley Kansas City Hey 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 de Little Richard. Pour la deuxième chanson, seul l'enregistrement audio a survécu, mais pour la première, vous pouvez toujours trouver la vidéo facilement sur Internet. Peu de temps après cette prestation au Cavern Club de Liverpool, les Beatles s'apprêtent à tourner une page importante de leur parcours, celle du chapitre Hambourg. S'il y a un lieu où les Fab Four se sont perfectionnés en tant que musiciens, c'est bien Hambourg. Leur premier réel contrat avec une salle de spectacle est en effet conclu dans ce port de l'Allemagne de l'Ouest, ce qui amorce leur carrière scénique. Le groupe débarque à Hambourg pour la première fois à l'été 1960. C'est le début de la période de concerts intensifs durant 3 ans et demi. Les musiciens y effectuent 5 résidences jusqu'à fin 62 qui alternent avec des séries de concerts en Angleterre. Ils cumulent ainsi quasiment 1 an de présence en Allemagne de l'Ouest. Alors aujourd'hui, le quartier où les Beatles atterrissent, St. Pauli, est un secteur branché et nocturne. Mais à l'époque, c'est plutôt la zone la plus craignos de la ville. Néons rouges à tous les coins de rue, commerce sexuel en tout genre, donc vous aurez compris, violence, trafic divers, etc. Bref, c'est tout ce qui vous vient spontanément en tête quand on vous parle d'un endroit malfamé. Et les conditions de vie et de travail du groupe y sont déplorables, même si elles s'améliorent légèrement au fil des séjours et de la progression de sa renommée. Ainsi, pour leur première résidence, les tout jeunes Anglais logent dans un débarras non chauffé, juste à côté des toilettes d'un cinéma, qu'ils utilisent comme point d'eau, froide bien sûr. Les fois suivantes, ils montent en gamme avec un dortoir miteux pour à la fin avoir droit à une chambre d'hôtel. Pendant leurs 6 premiers mois, de l'été à l'hiver 1960, ils doivent jouer dans des clubs assez minables 4 fois par jour, 7 jours sur 7, finissant à 2h du mat pour reprendre à 8. Sur scène, on les encourage à faire le show, les clowns, ce qui explique peut-être leur attitude à Liverpool ensuite quand Brian Epstein les découvre. Quant à la musique, citons John Lennon. On devait jouer des heures et des heures. Chaque chanson durait 20 minutes et avait 20 solos à l'intérieur. C'est ça qui a amélioré notre jeu. On n'avait personne à copier. On jouait ce qu'on préférait et les Allemands aimaient ça tant que c'était joué fort. La musique des Fab Four devient percussive, énergique. Pour ne pas tourner en rond, leur répertoire s'élargit jusqu'à ce qu'ils connaissent sur le bout des doigts quantité de morceaux de rock, de blues, de R&B qu'ils apprennent à l'oreille, sans compter les chansons de Marin, bien sûr. Leur jeu se fluidifie, leur présence scénique s'affirme. Les Beatles gagnent petit à petit en notoriété, y compris auprès de leurs confrères. Quand d'autres musiciens viennent vous observer à vos concerts, c'est plutôt bon signe en général. En ajoutant à tout cela le fait qu'à cette époque, les Fab Four sont de grands ados, que ces séjours ouest-allemands sont évidemment l'occasion de diverses expériences et initiations, sexuelles par exemple, ou encore du côté des drogues, qui se révèlent vite d'une grande aide pour rester éveillé durant les interminables concerts, eh bien au total on peut dire que Hambourg est l'endroit où les Beatles ont grandi. En décembre 1962, quelques mois après le concert filmé au Cavern Club qu'on a écouté tout à l'heure, le groupe monte une dernière fois à bord du ferry vers le continent. Même s'ils gardent de plutôt bons souvenirs de ces insouciantes séquences hambourgeoises, les musiciens sont pressés d'en avoir terminé. Ils viennent de faire leur premier pas en studio, de sortir leur premier single, les choses sérieuses sont enclenchées. L'ultime résidence des Fab Four à Hambourg se déroule au Star Club et c'est la seule dont il reste une trace sonore. Un enregistrement d'un des concerts a été réalisé de manière très sommaire à l'aide d'un magnétophone par le gérant de la salle et a été publié une quinzaine d'années plus tard sous la forme d'un album pas tout à fait officiel qui s'intitule Live at the Star Club in Hamburg, Germany, 1962. Et malgré sa faible qualité sonore, c'est un témoignage unique de cette période. Si vous étiez dans la salle du Star Club à Hambourg ce soir de décembre 1962, vous auriez découvert deux compositions Lennon-McCartney qui figureront sur le premier album des Beatles trois mois plus tard. I Saw Her Standing There et Ask Me Why à Hambourg, les plus anciens enregistrements en public connus de compositions originales signées Lennon et McCartney. Rappelons-le, l'objectif à ces concerts était aussi de faire du bruit, exemple avec cette reprise de Chimie Little Kimi.
Yes, I think it's yours.
C'était la dernière résidence à Hambourg, retour en Angleterre pour enchaîner les concerts. Pour la première fois, les Beatles participent alors à des tournées organisées avec d'autres artistes. C'est un format courant à l'époque. Les spectateurs peuvent voir un package d'une dizaine de musiciens défiler sur scène, chacun avec des prestations assez courtes, donc 4 ou 5 chansons, avec un entracte au milieu. Deux représentations sont prévues généralement chaque jour dans des villes différentes, dans l'après-midi et en soirée. Les Fab Four sont inclus successivement dans 3 tournées communes de ce type. Elles ont lieu durant l'année 1963. Chacune comporte bien sûr une tête d'affiche, puis d'autres artistes plus ou moins connus, dont l'importance se mesure à la position sur le programme. Plus le musicien est proche de la fin, plus il est célèbre. Pour leur première tournée, les Beatles jouent en 4e place sur 11. Bref, en dehors de Liverpool et de Hambourg, personne n'en a entendu parler. Eux sont ravis de pouvoir prendre part à ces spectacles qui, au-delà de leur permettre de gagner leur croûte, leur donnent de la visibilité et leur permettent de côtoyer des artistes qu'ils admirent. Eh bien, on ne va pas se priver de les écouter, ces musiciens phares du début des 60s qui ont tourné avec les Fab Four. En février 1963, John, Paul, George et Ringo embarquent ainsi dans le bus d'Hélène Shapiro, 16 ans, chanteuse beaucoup plus célèbre qu'eux à cette époque.
Just being here with you tonight, I'm a queen on a throne. And every time I hold you tight, a palace is my home. Yeah, but will my kingdom turn to dust in the morning light? I'm a queen for tonight.
Queen for tonight.
But will I have a king tomorrow?
Tomorrow.
Every kiss you're giving me is a jewel in my crown. I'm a high and mighty as can be with the treasure I found. But will my castle tumble down in the morning light? I'm a queen for tonight.
Queen for tonight.
But will I have a king tomorrow?
For Tonight par Hélène Shapiro, dont les Beatles jouent en quelque sorte la première partie. Au milieu de la tournée, coup de théâtre, le deuxième single des Fab Four, Please Please Me, sort dans les bacs et il fait un carton. Le groupe reçoit un accueil de plus en plus chaleureux de la part du public et finit par voler la vedette des spectacles, ce qui met John, Paul, George et Ringo un peu mal à l'aise et assez désolé pour Hélène Shapiro. Le scénario se répète lors des tournées suivantes. Quelques semaines plus tard, alors que les affiches annoncent Tommy Rowe et Chris Montez comme les clous du spectacle, les spectateurs ne viennent eux que pour voir les Beatles. Rendons donc justice à ces deux chanteurs, tout d'abord Tommy Rowe avec Sheila.
Sweet little Sheila, you know her if you see her. A little nosy man, this little girl is fine. Never knew a girl like a little Sheila. Her name drives me insane. Sweet little girl, that's my little Sheila. Man, this little girl is fine. Little girl is fine. Me and Sheila go for a ride, oh, 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 off in
Let's Dance par Chris Montez. Toujours au printemps 1963, les Beatles participent à leur troisième et dernière tournée commune, avec cette fois-ci en tête d'affiche un grand nom, un très grand nom de la musique américaine que l'on n'a pas oublié aujourd'hui, Roy Orbison. Les Fab Four sont très intimidés par cet immense chanteur avec qui ils finissent par sympathiser. Roy Orbison ne se vexe pas que les Beatles soient finalement programmés en dernier après lui. La preuve, 25 ans plus tard, il formera avec George Harrison et d'autres célèbres musiciens un super groupe, les Traveling Wilburys. Mais restons en 1963, lors de ces tournées où le public britannique peut pour la première fois voir Roy Orbison sur scène.
A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stardust and to whisper go to sleep, everything is all right. I close my eyes then I drift away
avec Roy Orbison. Désormais, plus besoin de devoir partager l'affiche avec d'autres musiciens, les Beatles remplissent les salles grâce à leur seul nom. Les concerts continuent de s'enchaîner à un rythme soutenu, Lennon et McCartney composent tube sur tube à l'arrière du bus qui sillonne le pays. Si le groupe est désormais connu, il n'est pas encore devenu un phénomène médiatique. Eh bien, c'est chose faite le 13 octobre 1963 grâce à un concert. Les Beatles participent au Sunday Night at the London Palladium, un programme télé très populaire où les musiciens du moment défilent sur scène en direct. 15 millions de téléspectateurs regardent l'émission, dont les Fab Four constituent le final.
About you night and day, I need. never, never blue. So I'm telling you, my friend, that I'll get you in the end. Yes, I will. I'll get you in the end. Oh, yeah. Oh, yeah. Well, there's gonna be a time when I'm gonna change your mind.
Le 13 octobre 1963, la naissance officielle de la Beatlemania. Le terme apparaît dans les journaux britanniques au lendemain de la prestation pour décrire l'accueil plus que fervent réservé aux Fab Four par le public, ainsi que les scènes de foule hurlante contenues tant bien que mal par des cordons de policiers complètement dépassés qui deviennent monnaie courante aux alentours des concerts du groupe et de ses studios. Les médias relayent largement ce phénomène inédit, un phénomène qui ne tarde pas d'ailleurs à déborder du pays. La première fois que les Beatles jouent à l'étranger en tant que célébrité, le cas particulier de Hambourg mis à part donc, c'est en Suède, fin octobre 1963. En plus des traditionnels concerts, le groupe y enregistre une prestation en public pour la télévision dont on retrouve des copies sur Internet. Imaginez que vous êtes un jeune Suédois, que vous avez la chance de pouvoir faire partie des quelques spectateurs installés dans le studio télé de l'émission Drop In ce 30 octobre 1963. Vous n'hésitez pas à interrompre le présentateur pour acclamer vos vedettes lorsqu'elles s'installent, bien sûr. Les quatre Anglais ont revêtu leurs costumes sombres, Paul, George et John se positionnent devant, Ringo est loin derrière sur une plateforme surélevée.
In the Beatles have Ringo Starr with trummorna, George Harrison solo-gitarr, det vill säga John Lennon kompgitarr och Paul McCartney elbas. Och den låt som de nu ska börja med, den heter She Loves You!
Should be glad. Thank you very much. Thank you.
She Loves You, le symbole de l'émergence de la Beatlemania. Autre chanson emblématique de cette période, From Me to You. Quelques jours plus tard, elle est jouée en ouverture du concert des Fab Four au Royal Variety Performance, un spectacle télévisé annuel à but caritatif auquel assiste la famille royale britannique. Une trentaine d'artistes sont au programme et les Beatles sont clairement les plus attendus. Ils y sont présentés à la reine mère Elizabeth, 63 ans, assise au premier rang. Si le Royal Variety Performance de 1963 a fait la une des journaux les jours suivants, c'est grâce à une phrase prononcée par l'impertinent Lennon qui a achevé de séduire les plus rétifs au charme de ces jeunes Beatles. Pour notre dernier morceau, nous aurions besoin de votre aide. Les personnes sur les sièges les moins chers, frappez dans les mains. Et les autres, si vous voulez bien, juste secouez vos bijoux.
Pour notre dernier numéro, I'd like to ask your help. But the people in the cheaper seats, clap your hands. And the rest of you, if you just rattle your jewelry. Thank you. We'd like to sing a song called Twist and Shout.
Yeah.
la famille royale britannique qui écoute Twist and Shout par les Beatles le 4 novembre 1963. Un autre concert télévisé qui fera date est diffusé 3 mois plus tard de l'autre côté de l'Atlantique. Il s'agit de la première apparition des Fab Four sur le petit écran des foyers américains. À leur arrivée à New York le 7 février 1964, des milliers de fans attendent John, Paul, George et Ringo à l'aéroport. 2 jours après, des millions de familles allument la télé pour assister au premier passage des Beatles dans le Ed Sullivan Show. Plus précisément, ce sont 73 millions de personnes qui regardent cette émission, 40% de la population, un record pour l'époque.
Ladies and gentlemen, the Beatles!
Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always need you. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the lips and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send. All my loving, darling.
Le 9 février 1964, le jour où les Beatles ont conquis l'Amérique et donc le monde entier. C'était ici All My Lovin'. 2 jours plus tard, les Fab Four donnent leur premier vrai concert aux États-Unis. C'est à la capitale, au Washington Coliseum, devant 8000 personnes. Le public entoure la scène à 360 degrés, puisque c'est en fait un ring de boxe reconverti. Le groupe, costume gris et bottines noires, joue au milieu des cris de la foule. La légende raconte même qu'un des policiers mobilisés s'est bouché les oreilles avec des balles de pistolet pour se protéger de la stridente clameur. Les spectateurs peuvent tout de même profiter des harmonies à 3 voix de John, Paul et George réunis autour d'un même micro sur This Boy.
Bye. this boy gets you back again.
Thank you very much.
Hello.
We would like to sing a song now, which was a record for us, and it was our first hit in England. And this is in England, way back in England. And this song was released in America. It didn't do anything. It was released later again, and well, it's doing something, you know. So. This, yeah, it is. So we'd like to play for you now a song called Please Please Me.
Please Me, titre éponyme du premier album du groupe sorti un an plus tôt et l'un des tubes fondateurs de la Beatlemania. Nous étions ici au Washington Coliseum, première date américaine des Beatles. Elle a été filmée et vous pouvez facilement en visionner des extraits, en couleur d'ailleurs, sur Internet. En 3 ans et demi de concerts intensifs, les Fab Four sont passés des clubs miteux de Hambourg à une prestigieuse salle de la capitale états-unienne, de petits groupes de rock amateurs à stars planétaires. Les Beatles s'accordent enfin une petite pause, quelques jours de vacances à Miami pour s'essayer à la pêche, au ski nautique et rencontrer Cassius Clay, plus connu plus tard sous le nom de Mohamed Ali. Viennent ensuite quelques semaines de travail en studio, un studio de musique et de cinéma pour enregistrer et tourner l'album et le film A Hard Day's Night. Les concerts reprennent ensuite, mais à une autre échelle avec de véritables tournées mondiales. Quant à nous, c'est l'heure de nous quitter avec le final traditionnel des concerts des Beatles, Long Tall Sally, hurlé par Paul McCartney, ici au Washington Coliseum. J'espère que cette émission vous aura plu, que vous aurez apprécié cet éclairage différent sur les Beatles. À bientôt dans Two Beatles or Not To Be.
I'm on a 10, man.